bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec les Lagan Rodelli.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Incroyable. Guillermo
Mouillet.
Il y aura Tanguy Pastureau et nos invités Caroline Brousse et Thierry Gola.
Bravo. Bravo. Bravo.
Ravi de vous accueillir pour cette 7e saison, c'est un truc de dingue quand même, 7e saison d'Engrenage, que vous portez à bout de bras avec Audrey Fleureau, avec Nicolas Briançon, avec toute la bande évidemment que l'on va retrouver. On va parler dans quelques instants. Dans quel état d'esprit vous êtes, Caroline ? 7e saison, vous vous dites...
On se dit, 7, c'est un chiffre magique, c'est beau, est-ce qu'on va continuer,
ouais, comme les doigts d'une main, comme...
Et puis finalement...
Il y a des très grandes mains, Nagui, c'est pour ça.
Oui, mais ça, on le sait.
Donc, ça va pas. Mais on avait dit que non.
Gardez du mystère.
Vous avez été aux mêmes soirées.
Et vous, Thierry Godard ? Vous êtes serein, vous êtes excité. Vous dites quoi ?
Super excité.
C'est vrai ?
Non, ouais, enfin c'est quelque chose d'incroyable, comme tu dis, cette saison. Je nous imagine encore être pas sûr de faire la deuxième. Enfin, tu vois, puis les choses.
C'est ça. Vous vous souvenez des débuts qui étaient peut-être.
Est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas ?
C'était pas vraiment chaotique. Non, ça a jamais été chaotique. J'ai jamais eu doute.
Si, mais on a attendu toujours beaucoup de temps entre chaque saison. Il fallait savoir les indices de satisfaction, les spectateurs, ils étaient contents, pas contents. Et puis donc on a attendu un an et demi à chaque fois entre chaque saison. Quand même.
Bah oui, puis surtout le temps d'écriture parce que 12 épisodes, c'est long.
Et puis trouver de nouvelles histoires. Mais en tout cas, c'est très 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 problématique parce que on a pu la voir et on peut rien dire.
Ça va être
la promo la pire du monde.
Encore une. Je vais vraiment me fâcher si vous dites. Moi je
c'est vrai.
Ouais, j'ai pas vu, je suis fan quoi, j'ai pas envie de savoir.
Enfin, mais on regarde là parce que c'est con dans 10 ans de se dire j'ai pas voulu voir la 7, je voulais pas savoir.
En tout cas, on peut pas être précis sur le début.
Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais il y a pas une seconde à manquer et c'est extrêmement bien joué, réalisé, écrit, vous allez vous régaler avec cette nouvelle saison qui démarre le 4 février, c'est la semaine prochaine. Donc 10 jours, 4 février. Ouais, c'est ça. On va jouer avec Caroline et Thierry. Caroline Proust n'a pas de lien avec Marcel Proust, pourtant elle a un point commun.
La Madeleine ?
Lequel ? Non. Pas mal, non. La recherche d'en perdu ? Non plus.
Ils viennent de la même ville ?
Non.
Il y a un Swan dans l'histoire ?
Non. Non, c'est quelque chose.
Son deuxième prénom, c'est Marcel ?
Non.
Ça a un rapport avec la littérature, l'amour de la littérature ?
Non, c'est un vrai lien.
Comme vous et Proust, c'est des phrases interminables ?
Non.
Cosmique, on pourrait dire.
Même date de naissance. Même jour de.
Mais c'est pas une raison pour hurler.
Oui,
mais j'ai hyper peur.
Pour une fois qu'il a le sentiment de trouver un truc.
C'est
un rapport avec sa date de naissance, oui.
Le même.
Bah, déjà, c'est pas la même année.
Eh ben, les.
Non, clairement.
Ben non.
Non.
Elle est née le jour d'anniversaire de la mort de Proust.
Ah ouais. Exactement.
Ouh,
ah,
joli. Ah ouais, les mecs.
La classe. Comment elle t'a piqué l'info, mais alors.
Alors Proust est mort.
Bah, bien sûr.
Thierry Godard se tourne, car tu le savais. Je pense qu'elle connaît sa date de naissance. Et donc vous êtes née le 18 novembre, Scorpion, le meilleur des signes possible.
Oh, ça va.
Je confirme.
Il y a combien de Scorpions autour de cette
avec
table ?
Avec toi et moi.
Ah bon.
Avec...
Il y a beaucoup de déchets donc.
Avec,
on va y aller. Hein.
Avec cette date du décès de Marcel Proust qui était aussi un 18 novembre. On vous a souvent fait la vanne entre. Sur ce nom de famille, en vous posant la question d'une filiation
éventuelle.
C'est-à-dire
que oui, évidemment, on pose tout le temps la question, donc c'est la réponse que je donne. Hein. Voilà, donc ça va assez vite. Non, et puis c'est mieux d'être comparé avec Marcel Proust que des vannes qui étaient plus triviales quand j'étais à l'école, évidemment.
Hein, on peut imaginer. À la Proust.
Exactement.
C'est vrai.
Proustiste,
j'ai eu aussi. Oui, on a eu des.
Mais Marcel a beaucoup souffert aussi.
Mais Marcel a beaucoup souffert. Et votre mère était prof de français en plus. Ma mère était prof de français, donc elle était très fière, évidemment, que ce soit marqué Madame Proust.
Thierry, est-ce que vous êtes le même genre que la mort de Jean-Luc Godard ?
Quelle horreur !
Non, de Jean-René.
Question justement sur.
C'est bête.
C'est dur. C'est dur,
C'est compliqué.
C'est dur d'y arriver. Comment ? Qu'est-ce que c'est ?
Ouais, il y a un truc que t'as pas fini de manger.
Ah, oui, il y a un truc qui n'a rien à voir surtout. Thierry Godard a eu un rôle de figurant dans Femme fatale de Brian De Palma, qui l'a pourtant un peu déçu.
Il a été coupé au montage ?
Il a été coupé au tournage.
C'est... Il a été coupé pendant le tournage. Ouais.
Alors, on lui a coupé ses scènes, il a pas...
Non.
Il était muet, il était muet.
Il y est, mais c'est un problème de...
Il est de dos, il est...
Ah, il est caché. Voit pas, quoi.
C'est un problème de cadre, oui.
Ah ouais, il est hors cadre.
Non, c'est hors cadre, c'est vrai. Mais c'est pas loin. Non, je prends le dos. Ouais, c'est ça, c'est qu'on voit que votre bras.
C'est pas vrai. Tu sais, je l'ai jamais vu, ce truc, mais... On voit que mon bras.
Alors que Nagui, il a reconnu votre bras, quoi. C'est ça qui me chelou.
Je pose le café à la fin à Antonio Banderas.
Vous vous souvenez le bras dans le film?
Ouais. C'est moi le bras.
Il y avait une gourmette.
Non, mais il regarde pas les films qu'il fait, Thierry. Donc c'est ça, c'est pour ça, il peut pas voir.
Exactement. Vous interprétez un serveur, pour, servir un café à Antonio Banderas, et on voit que le bras.
Oh merde.
Et là, vous ne saviez pas.
Je savais pas.
On le découvrait ce matin, quoi.
Quel fumier, ce Banderas. Toute la lumière pour lui.
Hein. Oh.
On l'invitera pas.
Comment je vais y arriver?
Donc,
oui, alors, pas. Ah bon, si, je vais y arriver, absolument, je vais me concentrer. Elle a dû attendre, je parle évidemment de Caroline
Proust.
Elle a dû attendre de devenir comédienne pour avoir une autorisation. Laquelle?
Celle de boire,
non.
De fumer,
non. De dépenser son argent comme elle voulait.
Non, ça l'avait commencé bien avant.
Ah oui.
Elle a dû attendre de devenir comédienne pour avoir une autorisation paternelle.
Se marier?
Non.
Se tatouer?
D'habiter toute seule.
Un piercing?
Exactement.
Ah ouais. Allez, boum!
Enfin, un piercing, les oreilles. C'est ça?
Oui, c'est vrai.
Là, c'est un piercing.
Ça, papa disait hors de question.
Hors de question.
Pas les oreilles.
Mais j'ai respecté hyper longtemps son désir. J'avoue. Juste se faire percer les oreilles, vous voulez dire? Ouais, parce que c'était une mutilation. Ah, d'accord. Voilà.
Ouais. Alors, piercing, j'entendrais. Oui, piercing, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus violent que les oreilles.
Il était assez radical. Mais les oreilles, d'accord. Il faut reconnaître.
Très bien. Respectons. Voilà. Et alors, quel rapport avec devenir comédienne? Maintenant, j'ai le droit.
Non, c'est-à-dire que...
Foutu pour foutu.
Non, mais je me suis autorisée pour pouvoir porter des boucles d'oreilles quand j'en avais envie, selon le rôle que j'interprétais, quoi. Voilà, c'était ça, en fait.
C'était professionnel.
Donc c'était plus vous, par rapport à vous-même et au respect de papa, que d'aller le voir en disant « Maintenant, je suis comédienne, il faut que je me fasse
penser aux oreilles. » C'est-à-dire que j'ai fait, j'étais adulte, hein, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Donc je lui ai dit « Bah voilà, je me suis fait percer les oreilles. » Il me dit « Ah bon ?»
Mais
bon.
T'avais quel âge à ce moment-là?
Oh, bah non, à 30 ans.
J'étais déjà assez âgée.
Comment Pascal Chomeil a-t-il repéré Thierry Godard pour faire un téléfilm sur France 3?
Ouais.
Téléfilm sur France 3.
Ah bah
non,
dans
c'est
un
pas
champ.
Dans la rue. Non.
Dans le métro?
Lors d'une interview?
Non.
Il a repéré son bras.
Alors,
il l'a vu dans un film.
Il a repéré une image. Il l'a vu quelque part, oui. Mais
il en a
pas
parlé avec Antonio Banderas.
Ah, non,
quand il travaillait comme
sur une photo.
Menuisier.
Pardon.
Quand il travaillait comme menuisier.
Non.
Dans un autre film.
Pas une photo. Alors c'est pas un autre
dans
film.
Une pub.
Un doc.
Exactement.
Une pub. Ah.
Bien vu. Dans une pub. Ah, bon. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que faire une pub pour un comédien c'est une catastrophe.
Ouais. Et non.
Parce que ça va nuire à la carrière. C'est exactement l'inverse.
Ouais, je trouve que c'est la pub c'est super quand personne te connaît. Puis c'est un moment où tu peux être bien filmé, où tu peux être marrant, où tu peux être.
Par moment, il y a plus de budget sur une pub que sur certains téléfilms aussi. Ouais. En termes de lumière, de cadre.
Je crois qu'en Afrique du Sud, on avait tourné. Tu vois.
D'accord.
Puberta.
Waouh.
J'allais dire que c'était pour du jambon, c'est vrai.
Pour du jambon.
Ouais, pour du jambon.
Et au minimum, faut aller en Afrique pour du jambon, évidemment.
Bien sûr.
Oui, c'est logique.
Et comment le réalisateur vous contacte en disant je vous ai vu avec votre tranche et j'aimerais vous voir de plus près.
Non, c'était Bruno Schisch qui réalisait. Et il bossait chez Quad avec Pascal Chomeil qui aussi réalisait des pubs.
Okay.
Et il m'a vu au montage, il a dit, oh tiens, une bonne gueule. Voilà.
D'accord, bah, ça a fonctionné en tout cas. Dans quelles circonstances de la vie quotidienne Caroline Proust s'énerve-t-elle?
Il y a une injustice.
On va dire très, non,
au volant.
Alors, c'est pas loin, c'est très parisien.
Dans le
métro?
Non, c'est pas au volant.
Trottinette?
Au café?
Quand elle est piétonne,
à vélo.
Exactement.
À vélo.
Il paraît que vous pouvez balancer des tonnes d'insultes. Quand vous êtes à vélo et que...
Mais aussi en voiture, hein. Ça ne partait pas pour vélo.
Sauf qu'à vélo, il n'y a pas d'habitacle, donc les gens vous entendent. C'est le...
Non mais alors, dites-moi, c'est vrai, vous démarrez où cette information?
On vous a suivi, Caroline.
Vous souvenez le gros humeur qui était derrière vous? C'était Nagui.
Vous avez des coups de sang à vélo et vous démarrez au quart de
tour. C'est-à-dire que quand on est à vélo, on est quand même très fragile.
On est son propre pare-choc.
Voilà, alors moi, je remercie Anne Hidalgo qui est conspuée par énormément de gens. Je la remercie d'avoir fait ces pistes cyclables. qui sécurise parfaitement les cyclistes.
Et vous pensez quoi des pistes cyclables qui vont à contresens des voitures et où il n'y a pas de place et pour un vélo et pour une voiture?
Je pense que les vélos doivent se ranger quand la voiture arrive, puisque...
Non, mais c'est... Moi, je trouve ça très dangereux pour les vélos.
C'est-à-dire que quand on est à vélo, on est très, très vulnérable. Donc, il faut le savoir. Il faut penser qu'on est un fantôme, donc personne ne vous voit. Et puis, comme ça, on se sécurise. Voilà. Et il faut, en même temps, utiliser la place dont on a besoin sur la chaussée.
C'est clair. Ouais.
Donc, quand il y a des voitures qui arrivent en face et que vous êtes à vélo, bah, vous vous rangez, vous attendez que les 15 voitures passent, puis après, vous passez. Voilà.
C'est très intelligent de votre part. Vous respectez le code de la route ou quelques feux rouges
Je ne respecte pas tout à fait le code de la route par sécurité, en fait, pour ne pas gêner les voitures. Non, mais c'est vrai.
Dites donc. C'est-à-dire... Bonjour, moi.
Bravo. Non, mais c'est vrai.
Merci. Je relais vite, mais parce que j'étais bourré.
Mais non, c'est pas ça. C'est très important de préciser pourquoi. Quand le feu est rouge et qu'il y a des piétons qui passent, je m'arrête, je laisse passer les piétons. Une fois que, maintenant d'ailleurs, il y a des tas d'étiquettes qui proposent de passer, mais il faut s'arrêter pour respecter le piéton, qui lui est prioritaire. Bon. Ensuite, quand on démarre et qu'il y a 15 voitures qui sont énervées parce que ça fait un moment qu'elles attendent et tout ça, et que le vélo gêne le démarrage, eh bien, on se met en danger. Donc, dans ce cas, s'il n'y a pas de voiture qui vous gêne, eh bien, vous passez. Voilà. Et là, vous emmerdez moins les gens.
C'est mieux. Ouais, c'est pour la fluidité du trafic.
Exactement. Bah oui. Exactement.
Il faut être intelligent à vélo.
Il y a des petites flèches maintenant qui ont dit que tu peux cramer les feux, non ?
Oui, il y a des petites flèches qui sont d'ailleurs souvent recouvertes par des autocollants, par des gens qui détestent les cyclistes, certainement.
Bon, ouais, ou jalousie, tout ça un peu.
Oui, bah, de toute façon, je conseille à tous les Parisiens de circuler à vélo. Hein. C'est le moyen le plus sûr de savoir combien de temps on met pour aller d'un point A à un point B. Ouais.
Vous avez bien vécu le changement de Vélib à rien, puis à nouveau maintenant 25 Vélib différents. Vous avez votre
propre
vélo.
Ah non, mais moi j'ai mon propre vélo depuis très très longtemps. Ça fait des années. Je n'ai pas attendu d'avoir un Vélib pour circuler. J'ai essayé une fois le Vélib, j'aime pas le Vélib. Voilà, j'adore les vélos.
Il est lourd. Ouais, il est lourd.
Bah, oui, il est pas très équilibré. Ouais, je suis pas très fan. Voilà.
Bah, passer 80 kilos, tu manques de stabilité quand même.
Non. Très élégant.
Ouais. Très élégant. Non, il parlait du vélo.
Il a des grandes mains, mais il est bête.
Dans quel lieu peu confortable Thierry Godard peut-il tourner des scènes d'engrenage pendant parfois une semaine entière?
Dans une voiture de planque, là.
Ouais. Ouais, je vais
dans le sous-marin.
Exactement, un truc de planque.
Ouais. Bah, c'est la voiture, le sous-marin.
Oui, mais c'est plus la notion de planque.
Parce que j'ai dit que t'as un petit cerveau.
Et d'enfermement, je ne vois pas qui vous êtes. Et d'enfermement, et vous pouvez rester des semaines.
Voilà, nous ça va, on sort, il y a une table régie, puis on nous ramène chez nous. On, mais les flics, ouais, eux restent souvent super longtemps, ils pissent dans des bouteilles d'ailleurs, tu vois.
Comme les camions.
Comme les jours de foire.
Non, comme les conducteurs de camions.
Comme les conducteurs de
camions. Ouais, les conducteurs de camions font ça.
Comme Léon Zitrone.
Comme Léon Zitrone.
Lorsqu'il devait commenter le mariage de la reine, histoire vraie, où il avait, comme il était obligé de commenter pendant des heures et des heures et des heures, et que ce monsieur avait un certain âge, il avait une bouillotte. Et tout en commentant, mais la reine s'approche, jamais, et ben il mettait son machin dans la bouillotte et
ça rentrait.
Et puis ça lui tenait chaud en même temps.
C'est ça. Pourquoi la bouillotte?
C'est la bonne question.
C'est bizarre.
Il tenait chaud après, il refermait ça et c'est tranquille.
Ah oui, parce qu'il était dehors.
Ouais, bah oui.
Mais non, mais c'était pas dégueulasse, c'est dans la bouillotte.
Et puis après, c'était chaud, ça l'a réchauffé.
C'est ça. Parlons donc d'engrenage.
Oui, la bouillotte, j'aime bien l'histoire de la bouillotte.
Cette série avec donc Caroline Proust, Audrey Floreau, Nicolas Briançon, Philippe Duclos, Fred Bianconi, évidemment Thierry Godard, notre invité Louis Do de Langsaint, Valentin Merlet, Bruno Debrandt, Twefik Jalab, Lionel Erdogan, Dominique Daguier, je ne pourrais pas tous les citer, je voudrais juste que l'on se situe à la fin de la sixième saison, parce que quand on démarre, vous êtes votre personnage Caroline, vous n'êtes plus dans le service. Thierry Godard a pris du grade et c'est maintenant lui le taulier. Et vous êtes en convalescence.
Je suis en convalescence, mais ce qui est assez remarquable dans l'écriture, c'est qu'on peut commencer à regarder la saison 7 sans avoir vu ce qui précède.
Ouais. J'entends, mais je voudrais juste resituer.
Bah, je vais voir ma petite fille à l'hôpital pour la récupérer après une saison où vraiment c'était compliqué de se rapprocher d'elle. Et au moment de franchir la porte, je vois son petit bras et je pars en courant, en pleurant. Je me dis non, je suis incapable de faire ça. Je peux pas m'occuper de cet enfant, j'y arriverai pas.
La sixième saison, c'est fini en situation de crise. Audrey Floreau, l'avocate, elle se retrouve en prison.
Oui. Et Gilou, donc Thierry Godard, m'attend sur le parking parce que donc on est en histoire d'amour avec un gros, une grosse peluche et ben il continue toujours d'attendre. C'est pas facile.
Entre temps, je me suis occupé de la pluche.
Voilà, c'est ça. On fait ce qu'on peut. Et arrive donc, forcément, il y a une nouvelle intrigue, une nouvelle enquête. On ne peut rien en dire. La force de cette série, pour vous, se situe sur l'intrigue, sur la part humaine qu'il y a aussi. Vous avez chacun vos vies, vos histoires.
Personnages sont hyper bien développés. Ouais, c'est ça. Vrai.
Ben, l'avantage des feuilletons, c'est que on peut aller vraiment dans la finesse des relations.
Et on s'attache.
Ben voilà. Donc si ça dure autant, c'est que on essaye de comprendre, de décortiquer vraiment comment les choses arrivent et quelles sont les relations entre les personnages.
Thierry Godard, quelle est la force pour vous d'Engrenage?
Ben, c'est cet équilibre entre l'enquête et la psychologie des personnages. Ouais. On va jamais trop dans le pathos avec les. Voilà, il y a toujours quelque chose qui a été assez juste depuis le départ où. Ouais. Justement, on voulait pas retrouver les gens chez eux en train de faire la popote et parler du truc. On voulait que ça reste, qu'ils restent des flics, profondément des flics. Et petit à petit, s'est développée cette psychologie autour de l'enquête et autour de leur relation à eux. Mais ça, c'est le temps qui a fait ça, je pense.
Ouais. Et puis il y a les non-dits, il y a les silences, il y a les regards. Il y a beaucoup de.
C'est qu'on se connaît tellement.
Il y a beaucoup d'action et de part psychologique aussi.
Ouais, c'est ça. Mais on se connaît tellement, je la regarde, on se regarde. Je la vois pleurer, j'ai envie de pleurer, tu vois, il y a quelque chose de...
Non, là, vous êtes dans la vie réelle, dans la série.
Non, mais même dans la série, si tu veux.
Non, mais dans la série, c'est vrai, c'est ça qui se passe entre nous.
Oui, bien sûr, non, mais c'est ce qu'on ressent, d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, on est troublé par cette relation non...
Il y a presque une impudeur, maintenant.
Non vécue, ouais, c'est ça.
Ouais, quelque chose de très... Il n'y a plus de filtre, en fait.
On se demande à quel moment il y a une bascule qui va se passer.
Bah, la bascule arrive, de toute façon, en permanence. Un coup, on s'aime, un coup, on s'aime plus.
C'est ça.
Tout est sur le fil.
On s'embrasse ou on s'engueule jusqu'à, c'est même physiquement, quelquefois, la répulsion est physique.
Ouais, je la vois, je dis merde, là. Et des fois, on a quelque chose de très fort, ouais.
Et puis tous les autres personnes, tous les autres, le juge aussi
il est génial, ce personnage
qui s'accroche à ses derniers dossiers avant une éventuelle retraite. Il y a aussi les tensions entre services, la hiérarchie, enfin tout y est. Mais il y a un truc en plus.
Oui, il y a un truc en plus. Et pour revenir au personnage du juge, c'est ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est dans la tradition de la série policière, même littéraire, on a toujours un personnage un peu lettré, un peu élégant, qui vient apporter un petit peu de grâce, qui est là pour contrebalancer, même en termes de dialogue et de vocabulaire avec les autres personnages. Moi j'adore le juge Robin parce qu'il est hyper gracieux et il amène aussi un autre rythme dans la série, parce qu'avec lui tout d'un coup c'est plus calme, c'est plus posé.
Même ses interrogatoires sont
absolument
touchants.
Et c'est pas dénué de stratégie par ailleurs, parce qu'il y a un lien aussi qui s'est créé avec la police depuis le début.
Elle s'identifie, elle a quelqu'un de lettré dans une bande de gens pas éduqués.
J'adore ce personnage. Je le trouve troublant, vraiment.
Ça commence donc le 4 février. Tom Villa, ça va être un succès en Grenage.
A priori, les 6 premières saisons ont cartonné, donc je pense que la 7e, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je suis pas Madame Soleil, mais a priori, ça devrait bien se passer. Et puis, c'est quand même l'une des dernières bonnes raisons d'être abonné à Canal, quoi. Le foot.
On salue les représentants de Canal qui sont venus.
Le foot, de suspense. Le PSG va-t-il être champion mi-mars ou mi-avril? Si, bonne nouvelle, le cinéma qui revient un peu. Ils pourront diffuser les films seulement 6 mois après leur sortie en salle. Mauvaise nouvelle, quoi qu'il arrive, ça reste des films français. Mais Canal, c'est les séries. Et Engrenage, ça reste l'un des piliers de Canal, série la plus exportée dans le monde.
La première création originale de Canal.
Voilà, et série exporté dans le monde, dans plus de 70 pays, je crois. Et la dernière chose qu'on a exporté dans autant de pays, c'est les migrants de l'Aquarius. Vous voyez, donc, même chez les Anglais, qui sont super exigeants, les Anglais, Engrenage s'est diffusé sur la BBC. Voilà, le service public anglais.
Chic.
Voilà. Bon, c'est BBC 4, c'est l'équivalent de France O, mais c'est bien quand même. En même temps, le pitch est redoutable. Une série assez réaliste qui mêle police et justice avec des intrigues hyper bien travaillées et des acteurs super bons. C'est une sorte de cordier jugé flic, mais en bien. Alors bon, après, faut être honnête, vous cartonnez à l'étranger, mais c'était pas gagné. Parce qu'aux États-Unis, les séries policières, c'était pas tout à fait la même ambiance. Ils ont des bureaux de dingue, des ordis dernier cri, des moyens techniques dignes de films de science-fiction. Vous êtes plus sur Windows 98, vous bossez à 4 dans 6 mètres carrés, la peinture s'effrite, il y a de l'amiante dans les murs, du lino au sol, les chaises qui couinent, les bureaux qui grincent.
C'est pas vrai, on a un open space.
On sait ce que c'est à France Inter. Il y a pas de souris, pour imprimer un truc, faut aller dans le bureau de la secrétaire qui est la seule à avoir l'imprimante qui fonctionne. Pour avoir des stylos, faut faire une commande 6 mois à l'avance. Non. Et puis vous assumez le côté normal. Normalement, dans les experts, NCIS, le nom des flics, ça claque, tu vois, c'est Gibbs, Dinanzo, vous, c'est Laure, Gilou, Tintin. On dirait un extrait du journal Le Spirou, tu sais. Mais vous assumez, c'est ça qui est bien, parce que c'est vrai que ça sert à rien de se la raconter avec l'inspecteur Jonathan Ross. Non, en vrai, le mec, il s'appelle Michel Pitouquet ou Daniel Morin, tu vois, il y a un nom un peu classique, tu vois. Vous imaginez la gueule des Américains quand ils ont vu débarquer la série, tu sais, dans Grenage, une enquête, elle peut planter à cause d'un pneu crevé ou d'un vice de procédure. Vous imaginez, les Américains, ils ont élu un gars qui aligne les mensonges comme les perles et ils condamnent à mort des gars sans trop de preuves, si ce n'est que le gars en question n'est pas blanc et vous débarquez, vous, avec votre vice de procédure. C'est bien simple là-bas, le vice de procédure, il n'existe pas, parce que pour qu'il y ait un vice de procédure, il faut qu'il y ait une procédure. C'est la base, voilà. Mais bravo à vous, en plus, une des recettes du succès, c'est que vous arrivez à coller à une certaine actualité sans être trop proche non plus, ça c'est génial. Rendez-vous dans la saison 8, où vous nous apprendrez à tabasser des gilets jaunes, réussir un tir de flashball, même quand la personne est trop près, créer une cagnotte litchi et préparer un débat en vue d'une interview dans Ballos ton poste. Bref, ça sent le succès.
Merci Topina. La bulle originale,
lundi sur France Inter.
Quand on tient comme ça autant une série sur ses épaules tous les deux et qu'on vit une 7e saison, on cloisonne toujours entre son personnage et soi-même ou on finit par mélanger les deux, Caroline ?
Non, moi je mélange un petit peu.
C'est vrai ?
Ouais, je mélange un petit peu. Beaucoup, par exemple, quand je suis à vélo, je mets le giro, quoi. La goutte.
Thierry Gilou, il n'est pas très loin de qui vous êtes, quand même.
Il s'est éloigné un peu. Au début, c'était carrément moi. C'était moi qui sortais un peu d'une adolescence un peu punk. Et j'ai adoré retrouver ce flic, quoi, qui prenait de la coke, qui était complètement borderline. Et petit à petit, on va dire qu'il s'est éloigné, mais en même temps, il s'est rapproché dans l'écriture. Donc, il y a eu quelque chose qui, ça m'a suivi un peu.
J'imagine que vous travaillez aussi en lien avec les scénaristes.
Ou pas. C'est ça la question.
Non, ouais, parce que, est-ce que.
Toi, ouais.
Moi, oui, ouais. J'aime bien. Ouais. C'est arrivé doucement, en fait. Ouais. C'est pas du tout, c'est sur la saison 5, Vassili, qui était le producteur à ce moment-là, nous a suggéré de collaborer avec Anne Landois, qui était notre showrunner, et donc il a fait des rendez-vous en tête-à-tête, et elle nous a dit qu'est-ce que vous avez envie, enfin voilà, c'est quoi ce que vous envisagez pour la saison 5.
Qui voulait vous voir disparaître
Voilà, exactement. Donc on a chacun dit ce qu'on avait envie.
C'est collant, hein, parce que
personne n'était là pour
juger. Vous tirez au sort, vous éliminez.
Personne filmait, tout ça. Donc j'ai...
Vous suggérez aussi, vous proposez pour votre personnage des situations ou des rebondissements possibles.
Je les suggère, ils sont pas forcément toujours écoutés, mais c'est vrai que depuis le départ, je me suis dit, tiens, si ça dure, il faut que je sème des petites choses pour que je puisse avoir. Et donc, par exemple, j'ai mis cette chaîne avec ce lanké là, qui est le copte égyptien, le signe des coptes, et qui est le symbole de vie. Et je me suis raconté un truc avec ça en me disant, c'est ma sœur qui est morte, et c'est pour ça que je suis devenue policière et tout ça. Et je l'ai suggéré. Bon, ça n'a pas été exploité, par exemple.
Ouais. Non,
bon, voilà, ça c'est un truc.
C'est tambouille à toi, quoi.
Ça peut faire partie de ce qu'on appelle la Bible dans une fiction, c'est-à-dire le passé d'un personnage pour lui donner du sens et de la forme.
C'est ça. Ouais.
Le début de cette septième saison, vous êtes, vous êtes belle comme tout dans la vie, vous êtes totalement paumée, décoiffée, on a l'impression abîmée par la vie. En tout cas, non, mais c'est vrai.
Non, mais le personnage, ouais, c'est-à-dire.
Les premières images.
C'est violent, ouais. C'est violent. Oui, ils m'ont pas fait de cadeau. Mais en même temps, moi, je me prête complètement au jeu.
Vous acceptez ça,
Oui, parce que je trouve que c'est ça, être comédien, en fait. C'est d'être disponible pour interpréter les situations qui sont interprétées, qui ne sont pas toujours glam. Et là, ce n'est pas glam du tout.
Et ça rajoute du crédit, surtout à ce qui se passe.
Bah voilà, c'est important. Ça participe de l'histoire et de. J'ai pas compris.
Non, mais c'est pas glam. Et pas glam le personnage. Sortir de la maison de repos après être confronté aussi à la présence de sa fille, c'est vrai que c'est des choses qui vont s'ajouter en strates. Le retour en plus, j'essaie de pas trop en dire.
Non plus.
La brigade qui. Ça se fait pas hyper facilement non plus. À chaque fois, c'est comme si on prenait une brique supplémentaire.
C'est ça. Donc il faut à chaque fois le prendre. Donc en effet, ça. Évidemment, comme ça prend quand même 7-8 mois de tournage, hein, de faire une saison, on vit quand même beaucoup avec ça. Et du coup, il y a une épaisseur qui se crée au fur et à mesure des années, et c'est ça qu'on voit beaucoup, je trouve, dans la saison 7.
Et ça fonctionne à partir du lundi 4 février, 21h, deux épisodes par soirée. L'intégralité, si vous êtes abonné à Canal,
MyCanal.
C'est un abonnement supplémentaire, je sais pas.
Sur
MyCanal, en tout cas, vous pouvez avoir l'intégralité.
Si ça coûte Canal, on peut l'avoir gratos, l'appli. C'était histoire d'en remettre une couche sur Canal.
L'intégralité de la saison dès la première soirée. Voici Guillermo.
Ça. Ah
ouais, c'est le mec en t-shirt. Hein.
Ça va les amigos,
le footballeur.
Je suis bien content d'être là parce que j'ai vu toutes les saisons dans Grenache. Je suis très fan. Ça fait du bien, je veux dire, de ne pas devoir être hypocrite avec les invités pour une fois. L'autre jour, à votre place, il y avait un acteur, je connaissais de nulle part, Daniel Auteuil ou je sais pas quoi. Là. Personne autour de cette table qui avait entendu parler de lui. Ils ne sentaient que deux, là, ils étaient en train de ramer là, pour les questions. Leïla qui était là, oui, Daniel Auteuil, quand vous allez au cinéma, vous préférez payer en cash ou plutôt avec une carte de crédit, enfin, tu vois. Le pauvre, c'était vraiment horrible, c'était pénible. Alors qu'ici, à part Tom Villa, tout le monde aime bien en Grenache, je pense. Et au-delà de ça, je suis très content d'être à côté de Caroline Proust parce que je pense que vous avez des origines luxembourgeoises, non?
Pourquoi?
Vous n'avez pas?
Non.
Non, c'est ce que je disais, vous n'avez pas d'origine luxembourgeoise et c'est bien dommage. parce que ça aurait fait une transition remarquable en fait, parce que je vais parler du Luxembourg justement. Le Luxembourg qui est le premier pays au monde à avoir instauré les transports en commun. Car tu vois, Caroline, vous ratez un truc. Si vous avez des origines luxembourgeoises, là vous pourriez dire oh, je viens de chez nous, c'est super. Voilà, on va pas revenir là-dessus, tant pis pour vous. Non, tant pis, vous préférez être génétiquement homogène, super. Très bien. Mais c'est stylé, non? À partir de mars 2020, les Luxembourgeois, ils ne vont plus payer dans les transports en commun, comme sur la ligne 13.
C'est vachement bien. Ouais,
moi, sur la ligne 13, je passe jamais le portique seul. Jamais. J'ai déjà passé le portique avec 7 personnes sur la ligne 13. Deux sur mes épaules, 3 dans mon sac. Le reste, je préfère même pas vous expliquer. Vraiment, tu peux tomber enceinte en passant le portique de la ligne 13. Vraiment, fille ou garçon. Et c'est pas un jugement de valeur. Moi-même, je fraude à Bruxelles. Je paye jamais dans le tram et je sais que ça fait de moi une espèce de figure emblématique du banditisme. Mais pour autant, c'est ce que je disais dans une interview à Fleurimérogis Magazine qui me demandait si j'ai l'impression d'avoir une responsabilité vis-à-vis des détenus pour qui je suis un peu un guide. Et, ouais. Et je leur disais, ok, je suis un voyou. Ok, je fraude dans le tram, mais j'ai jamais versé une seule goutte de sang. Si t'as pas un code d'honneur, quand tu fraudes le tram, t'es personne. Moi, j'ai deux principes. Je suis pas une balance et je fraude jamais plus de 3 arrêts. Sinon, après, je fais les crises de panique. Ça me donne de l'eczéma entre la cuisse et le scrotum comme Daniel Morin. Mais c'est légitime de risquer. Moi, le prix des transports en commun, ça me donne envie de crever dans un argument de Luc Ferry. Vraiment, je pense. Ça fait des années qu'on nous dit d'arrêter de rouler en voiture. C'est vrai, parce qu'apparemment, je sais pas, il y avait une espèce de forme de pollution là dans l'air, ou quoi, comme en Chine et tout. Bon, je trouve que c'est très exagéré. Moi, je dis tant qu'on voit le soleil, ça va. Franchement, ça va. Mais quand bien même, depuis 10 ans, le seul truc qu'on trouve pour inciter les gens à prendre les transports publics, c'est augmenter le prix du ticket. Il faut inverser l'équation. Ils l'ont fait à Dunkerque. Les transports sont gratuits à Dunkerque. Je sais que c'est le Nord et qu'ici, à France Inter, vous appelez pas vraiment ça la France. Mais enfin, c'est une question de priorité budgétaire. Au Luxembourg, par exemple, la gratuité des transports en commun, ça va coûter 41 millions d'euros par an. Bon, ce sera payé par Nagui, qui a toujours dit qu'il ferait un petit geste pour Luxembourg en échange de services rendus à l'époque de je sais pas exactement quoi. Et sans... Vous avez un code d'honneur, ce patron, c'est important pour vous aussi.
Moi, je respecte.
Et vous allez me dire, Luxembourg, c'est minuscule, niveau taille, Luxembourg, c'est pas un pays, c'est plus comme un parc. Si t'es dans un long train, tu peux toucher les deux frontières, tout, c'est vrai, ok. Vous allez me dire, oui, il y a pas de métro, Luxembourg. Il y a pas de métro, c'est vrai, Luxembourg. Parce que dans le sous-sol, ils stockent l'argent des multinationales. Ah, blingue engagé. Ernesto, qu'est-ce qui t'arrive? T'as lu un journal, t'as vu, tu veux un sucre? Mais c'est vrai que j'aime bien moquer du Luxembourg, parce qu'il faut comprendre, en Belgique, on n'a pas souvent l'occasion de mépriser d'autres peuples. Vous n'aurez pas la chance que vous avez en France d'avoir un sentiment de supériorité, sur, notamment sur tous les pays qui existent, et surtout ceux dont vous avez volé les Coupes du Monde. Mais ce coup-ci, je trouve que vous devriez quand même vous inspirer de vos voisins, ceux du Luxembourg et de Dunkerque. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, bien vous.
La bande originale.
Nous parlons d'engrenage avec Caroline Proust et Thierry Godard qui sont nos invités. Ça revient sur Canal le 4 février, lundi 4 février à 21h. Et puis la musique dans la vie de Caroline Proust et de Thierry Godard, on va commencer en 1985. Les paroles par cœur.
Je connais une quantité de chansons, je comprends par cœur, mais je sais même pas comment je fais en fait.
Parce que vous avez beaucoup grandi avec Cure dans les tympans.
Non, avec des tas de musique. des tas de musique, pas que Cure.
Non, enfin, la connaître par cœur les paroles de Cure The Walk, c'est pas.
Je connais des petits bouts. Je connais des petits bouts.
D'accord, ok. Voilà. D'accord, ça m'a impressionné. On verra pour N'oubliez pas les paroles plus tard. Ça vous renvoie à quelles images d'entendre les Cure? Vous voyez quoi, adolescente, à Montpellier, à Paris?
Oui, à Montpellier, c'était vraiment à Montpellier. Quand je suis arrivée au conservatoire, commencer ma carrière, je ne savais pas que j'allais durer autant. J'avais envie d'être comédienne et je suis rentrée au conservatoire de Montpellier. C'était merveilleux, c'était le départ de... voilà, j'y suis encore aujourd'hui, ouais. Donc c'est génial.
Et votre père n'était pas complètement fan de l'idée, en revanche, votre mère... finalement avait eu envie elle aussi d'être comédienne, je crois.
Alors ma mère vient d'un milieu bourgeois où son père était médecin à Cherbourg et donc quand elle a dit qu'elle voulait être comédienne parce qu'elle faisait du théâtre au lycée, comme moi, c'est ce qui s'est passé, son père lui a dit que c'était un métier de femme de petite vertu, ouais. Il n'était pas question que sa fille fasse ce métier, donc elle a décidé de faire de la scène autrement, elle est devenue prof.
Et vous, l'envie est venue comment? C'est justement un prof qui vous a transmis dans des... souvent, il y a des pièces en fête de fin d'année, comme ça, qui sont montées par des profs de français.
Ouais, alors moi, j'ai suivi une amie qui se destinait à être comédienne, qui n'est pas du tout devenue comédienne, qui s'occupe d'organiser des concerts et tout ça. Donc bon, c'est marrant. Et donc, je voulais être avec elle entre midi et deux, parce que c'était le club théâtre entre midi et deux. Ça m'intéressait de participer à ça pour être avec elle, en fait. Je m'en foutais un petit peu d'être au théâtre. Et puis un jour, j'étais très, très malheureuse. On a un ami qui s'est suicidé, elle a décidé qu'elle partait, et puis j'ai mon amoureux qui m'a plaqué dans la même semaine, donc j'étais quand même dans un état vraiment pas terrible à 16 ans, et je suis allée répéter vraiment la mort dans l'âme, et en sortant de cette répétition, j'ai compris qu'il se passait un truc, en fait.
Vous vous sentez mieux en jouant avec tous les maux de la vie.
Ça m'a extraite de tous les affres. Et j'ai dit, je vais faire ce métier. Voilà, ça m'est tombé dessus.
Parfait. Dans les mêmes années, c'est-à-dire 85, Thierry Godard, vous écoutiez Les Bérus.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple de mer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi.
On a pas envie de la couper, cette chanson, mais
c'est bon, ça.
Elle est culte.
Ah là là.
Elle est culte.
Et celle-là, n'oubliez pas les paroles, elle doit être très dure.
Super dure.
Ah oui.
Ouais, je suis d'accord, super dure.
Ouais, moi j'adorais Les Bérus, ouais.
C'est associé à quelle image alors?
Ouais, pour moi c'est des concerts à Montreuil, il y avait une espèce de lieu où on allait, où il y avait Les Bérus, Les Garçons Bouchés. Pour moi c'est... J'avais été un tout petit peu animateur d'une émission de radio, ça s'appelait Made in France, c'était tous les groupes français. Il y avait un rock français qui était très présent à l'époque, je trouvais, qui était... j'étais punk, et puis en même temps il y avait tout ce mouvement, Touche pas à mon pote, enfin il y avait tout ça, quoi. Je trouve que c'était une France qui était chouette.
Ouais, qui avait des rêves.
Ouais, qui avait des rêves, ouais. Encore maintenant, je veux pas être passé
punk, sinon. Ce que je veux dire par là, c'est que punk, il y a une image de No Future, ce qui n'était pas le cas
non.
Parce que je pense à François Pigalle et tous les groupes et les Garçons Bouchers et autres. Il y a quand même des idées, il y a des valeurs.
Ouais, moi je trouve.
Là, on te demande.
Toi, t'écoutes ça, moi j'ai des frissons quand j'écoute ça encore. Je trouve qu'il y a quelque chose de fédérateur.
Tristement d'actualité toujours, quoi.
Et tristement d'actualité, ouais.
Et vous, votre rêve à l'époque, c'était de devenir comédien, mais. Vous organisiez votre temps, il y avait tarif jour, tarif nuit, quoi. Tarif jour, c'était vous bossiez, vous étiez ébéniste, et tarif nuit, c'était cours de théâtre le soir.
Il y avait trois temps, il y avait tarif jour, c'est ce que je faisais. Après, il y avait les cours de théâtre.
ABC.
Et puis après, il y avait les bars, les concerts, et puis après, il fallait que je me lève pour être menuisier le matin.
C'est quoi, c'est l'école de la démerde?
C'est l'école de quand t'arrives à Paris, que tu connais personne et que tu dis voilà, je veux être comédien, tu prends l'IB, tu regardes, tu cherches, tu trouves un cours.
Il faut bouffer.
Et il faut bouffer. Donc j'avais la chance d'avoir un métier dans les mains, donc ça c'est super. Et je trouve que c'est chouette d'avoir un métier au moins manuel dans les mains, si tu peux te démerder. Et puis voilà, et du coup ça me permettait de tenir et ça m'a permis encore d'être comédien encore aujourd'hui.
Et pourquoi pas le conservatoire là aussi?
Ça, j'étais persuadé que je serais pas pris, enfin j'étais pas du truc. Enfin, je me voyais ni valet ni jeune premier, donc je me situais un peu entre les deux. Et du coup je me disais non, je cherchais un cours privé, quoi.
Donc ça veut dire que vous faisiez du théâtre, cours de théâtre, vous parlez dans les interviews de Jacqueline Duc.
Ouais,
Et le soir des pièces aussi, des représentations?
Ouais, je bossais avec des. C'est des familles qui se sont créées dans les cours de théâtre où d'un coup tu as une copine qui écrit des pièces, voilà, pas terrible, mais tu dis bon, on va les monter. Ouais. Voilà, c'est des petites familles qui se créent, et puis petit à petit on rentre dans le métier, mais c'est long.
C'est très long.
C'est long.
2004-2005, ce sont les débuts de l'aventure d'Engrenage, et là, Caroline Proust, vous écoutiez.
There is fire on the mountain, seem to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top.
Il y a 15 ans, c'est incroyable ça. Ah ouais. Je pensais que c'était hier cette chanson.
Bah oui.
Tellement bien.
Bah oui, c'est
tellement
ça.
Bien, tellement solaire aussi cette fille.
J'adore cette fille.
Aza avec Fire of the Mountain. Mm. Vous passez un casting pour entrer dans cette Fire on the Mountain, pardon. Vous passez un casting pour entrer dans la série?
Bah oui, j'ai passé un casting. Alors j'avais fait déjà la policière hein, chez Alain Corneau. Donc le casting ça a été très simple. C'était Jean-Teddy Philippe qui cherchait avec Christophe Moulin qui est le casting directeur et Jean-Teddy qui a réalisé le pilote donc dans lequel on était tous et ils ont décidé de faire une série d'après ce pilote que personne n'a vu. C'est un brouillon vraiment. C'est
donc il est collector, il est où ce pilote?
Ça s'appelle Intrigue au Palais.
C'est vrai,
c'est vrai. Au Palais.
Titre pourri.
Ouais,
tout pourri.
C'est vrai.
Et donc je suis arrivée sur cet essai et ça a été très 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 court. Je suis rentrée, il m'a dit est-ce que tu peux faire un doigt à la caméra? Je fais pardon. Tu peux faire un doigt? Je fais ok. Je fais un doigt. Il fait très bien. Bah merci. Je me suis dit, bah donc il a une journée certainement bien remplie, il doit être crevé. Donc je suis rentrée chez moi.
Et ça a été un casting
et
majeur.
J'ai dit, bah ça doit être. Je pense qu'il avait déjà choisi. Je me suis dit, il a fait juste ça, histoire de se dire, bon voilà, il faut.
Pour la provoquer.
Elle est venue, on lui fait faire un truc, mais vraiment, voilà quoi. Ouais. Voilà, je suis rentrée chez moi en disant, bon, c'est clair que je suis pas prise du tout.
Et finalement, ce pilote-là, Intrigue au Palais, a pas forcément complètement plu à Canal, qui a retardé, qui a attendu avant de lancer vraiment la série en grenage. Ouais.
Bah, c'est-à-dire que c'était un pilote qui était très mal écrit, hein, faut le dire.
Il y avait 20 personnages principaux, et après, ça s'est un peu réduit.
Ouais. Et ce qui est très marrant quand on voit le pilote, les quelques privilégiés qui l'ont vu, c'est que quand on nous voit tous les trois dans la voiture, puisque là vraiment on est tous les trois, Fred, Thierry et moi, ça marche vachement bien à l'image, ça se voit tout de suite qu'il y a un truc qu'on se connaissait pas, hein, vraiment on a tourné deux jours sur ce pilote, c'est tout. Et ça, tout de suite la chimie fonctionne en fait, et voilà.
Vous écoutiez vous dans ces années 2004-2005, Thierry Godard?
Drink up baby, stay up all night.
Elliott Smith. Une musique intemporelle. Elle pourrait être des années 60.
Bon, je vais t'écalmer un peu là.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, pour moi, ouais, j'avais découvert, pas moi. Mais Elliott Smith dans un petit magasin de vinyle comme ça. Et j'avais écouté ça et ça m'a scotché. Après, bon, il a fait la musique de Will Hunting. Puis après, bon, il a mal fini, mais voilà, j'adore. Ouais.
Donc, pour vous, Engrenage aussi, mais Bastille Idée également.
Ouais, ah oui, ça c'est bien après, mais Bastille Idée, ouais. Avec,
James, un film de James Watkins, c'est ça, avec Idriss Elba, José Garcia aussi, Charlotte Lebon, je crois.
Richard Madden.
Et en fait, il vous a vu dans Engrenage, le réel.
Ouais. Il m'a vu, il m'a dit, oui, je suis plus dans sa chambre d'hôtel aux États-Unis, je crois, il a vu un épisode. Puis voilà, il a demandé à me rencontrer. Et voilà, bon, après le film, est ce qu'il est.
C'est vrai qu'il leur a dit, est-ce que c'est pas le bras à côté d'Antonio Banderas?
Non, il n'a pas dit le bras, il a dit.
Moi, je me rappelle, j'avais vu Bastille Idée.
À Hollywood,
il y a le mec d'Engrenage.
c'est génial.
Ouais, c'est ça.
Et jouer en anglais? Parce que ça, c'est aussi.
Non, c'est un peu une catastrophe. Non, après, du moins en anglais, ça va. Si tu t'apprends ton texte, t'as le temps. C'était plutôt communiquer avec lui ou c'était compliqué. Mais il y avait quelqu'un qui était avec moi.
Il y a des coachs dans ces gars-là, comment ça se passe?
Ouais, voilà. Non, il voulait bosser avec
des
moi.
Des répétiteurs, des.
Il a dit, ouais, je voudrais m'assurer qu'il parle bien anglais. Donc on a fait un dîner, mais avec. C'est un casting qui après m'a coaché sur le film. Et là, j'ai rien pipé tout le long du repas. Donc je disais yes, enfin, je vais essayer. Et le lendemain, il a dit, bon, il piche que dalle. Mais je veux quand même bosser avec lui.
Il s'en est rendu compte.
Mais il le fait bien. Donc il y a eu un coach tout le temps avec moi. Bon, petit à petit, je comprenais des choses. Mais c'était compliqué un peu. J'ai adoré travailler avec les Anglais.
C'était un rêve quand même aussi.
C'était un rêve. Ah ouais, c'était un rêve.
En quoi c'est un rêve? C'est-à-dire que c'est vraiment l'image d'Épinal en se disant c'est l'étranger, c'est mondial.
Tu tires une balle avec un flingue et basta. Là-bas, tu peux en tirer 3000. Enfin, t'arrêtes pas de défourailler. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très.
Il y a des stages pour ça.
Si vous voulez, il y a des endroits pour faire ça.
Vous faire un paintball ce week-end?
Non, tu vois, nous, quand il y a une scène ou une arrestation dans une rue d'Aubervilliers, ça dure 2 heures et avec eux, ça dure 4 jours. Enfin, voilà. vraiment. Il y a que, puis c'est les Américains.
Y a... Alors, ce sont quoi? Il y a plus de moyens, il y a plus de cascades, il y a plus de.
Bah, je suis arrivé à Londres.
Au contraire, ils sont plus méticuleux, voire.
Non, je pense qu'ils bossent comme nous. Ils ont plus de temps, plus de pognon. Il y a quand même tout ça.
Oui, mais ça.
Bah, c'est un
ça
peu
paye.
La différence entre le cinéma et la télé, quand même, là, ce dont on parle, parce que.
Là, c'est encore pire, ça, c'est du blockbuster, donc il y a encore.
Ah oui,
plus
donc
de...
c'est moyen.
C'est incomparable. Le kiff de. J'ai tourné avec des Américains.
Ouais, c'est un rêve de gosse, ouais.
Oui, voilà. Donc c'est plus sûr, bien sûr. C'est plutôt toute la culture avec laquelle vous avez grandi.
Ouais, oui, il y a ça, bien sûr. Oui, ça.
Il y a un comédien américain qui vous a donné envie de faire ce métier.
Alors, plein,
vous avez une icône.
Ouais, un peu comme tout, enfin comme tous les comédiens. Non, mais Patrick Devers, ouais, beaucoup, ouais.
Ah d'accord, ouais, très américain.
Ah, tu voulais dire un américain.
Non, mais ça tombe bien.
Je trouve très bien. Comme
j'adore les acteurs américains, parce qu'ils sont bien coiffés. J'adore Robert Redford. J'adore Brad Pitt. Je trouve qu'un comédien doit avoir des
Est-ce que vous les trouvez
C'est vrai, qualité première.
Est-ce que vous les trouvez bons acteurs?
Ouais, enfin souvent. Après, c'est alors, je les trouve bons acteurs quand tu regardes ces films américains. Après, quand t'es en phase 2, la première fois que je me suis retrouvé devant Idris Elba qui joue, ils te regardent. En fait, ils sont pas comme nous. Enfin, ils sont quelque chose. Ils sont déjà dans des codes de jeu. Ils te regardent avec les yeux un peu comme ça, perçant. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il veut me pécho. Enfin, tu vois, c'était.
Mais paraît que oui.
Aïe.
Vous avez de beaux cheveux.
Non, mais ils sont dans d'autres codes et c'est super bien. C'est pour ça que des fois, dans des films américains, tu vois un acteur français, ça dénote tout de suite parce qu'on n'est pas dans le même. On n'est pas dans le même jeu, je trouve. On n'est pas. Voilà.
Dans, on va rester, puisqu'on était avec Elliott Smith dans la même mouvance musicale, puisque vous écoutiez Caroline Proust en 2012. On est pareil, on est dans le velours l'acoustique. Cool,
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce qui s'est passé quand j'ai... En fait, cette musique, c'est pour moi, pour accompagner un film que j'ai écrit qui raconte l'histoire d'une femme que j'estime beaucoup, qui s'appelle Sandrina George Skinner et qui est mariée avec un homme qui s'appelle Hank Skinner et qui est dans les couloirs de la mort. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, ça c'est un personnage pour moi, il faut que je raconte cette histoire. Je savais pas comment et tout ça. Et donc c'est le moment en fait, où je jouais au théâtre une pièce qui s'appelle L'Enterrement, ouais. Et je l'ai rencontré et puis de fil en aiguille, voilà, on a construit quelque chose et donc on a un scénario que j'ai sur lequel on a travaillé avec un scénariste qui s'appelle Cédric Melon et en fait on a voilà, j'espère qu'on va réussir à monter ce film. C'est compliqué parce que c'est un film qui est une copro américaine forcément et parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent aux États-Unis et voilà.
Donc depuis 7-8 ans, vous êtes toujours sur le même projet?
Ah ben là, ça fait un moment que ça traîne, parce que c'est long, parce que ça a été long, la maturation, de savoir si je faisais un truc au théâtre, si je faisais, voilà, c'était ça. Et puis finalement, on a écrit ce film, voilà, et c'est vrai que et pour moi, The Sound of Silence, je pense à cet homme qui est dans les couloirs de la mort, qui est innocent, et depuis 94, il est enfermé, quoi. Donc
c'est fou,
c'est inimaginable, c'est vertigineux.
Comment vous avez appris son histoire?
Pascal Clark qui avait invité Sandrina George et je l'ai entendu à France Inter.
D'accord, très bien. Et on embrasse Pascal.
Cette année-là, 2012, vous parliez de théâtre, L'Enterrement, qui est la suite de Festen, en fait.
Oui.
Et vous vous retrouvez sur scène à ce moment-là et vous dites que là, il y a eu une sorte de plaisir, mais décuplé à être sur scène. Que vous aviez déjà ressenti par le passé, mais là, ça avait l'air d'être une expérience particulièrement forte.
Ah bon, j'ai dit ça?
Ouais.
Je sais pas. Non, mais toutes les expériences de théâtre que j'ai faites ont été super fortes. J'adore jouer au théâtre. J'adore les planches. C'est un espace qui est merveilleux.
Et est-ce que justement les séries, le rythme de tournage vous permet de pouvoir projeter à l'avance des périodes de théâtre vraiment?
Ça permet de projeter plein de choses et en effet là comme on a des périodes qui sont quand même assez cadrées, oui. On peut s'organiser pour pouvoir faire des choses. Ouais. Moi j'ai un projet de théâtre qui va venir là.
Le théâtre il faut être disponible et c'est tous les soirs. Et là,
c'est ça. Et puis moi n'arrive pas. Thierry a réussi à faire ça. Moi je n'arrive pas
à
jouer au théâtre et à tourner la journée.
Ah oui, c'est vrai que Pas mal de comédiens font ça.
T'arrives jour, t'arrives nuit.
Moi, j'arrive pas. Ça me demande. Enfin, j'ai
parce que l'énergie c'est quoi, c'est que ça me prend. Physiquement, ouais, physiquement, c'est fatigant, c'est astreint.
Moi, dans la façon que j'ai de le faire, en tout cas, si ça me pompe une énergie de fou, quoi. Donc, j'ai la dernière pièce que j'ai jouée, c'était Vue du Pont au théâtre de l'Odéon, et c'était une pièce qui était très physique. Et c'était pour moi impensable de me dire que je me lève à 5h30, je vais tourner pour être prête à tourner à 8h, et puis ensuite je termine ma journée à 18h et j'enchaîne avec le théâtre et je me couche à minuit. Enfin, pour moi, c'était impensable.
Thierry, qu'avez-vous à répondre à cette agression ?
Ça dépend des pièces. Mais c'est... oui, bonsoir Nagui.
donc elle dit que vous ne faites pas votre métier d'une manière professionnelle et que vous cumulez des rôles.
Elle pense que je suis un branleur. Non, mais ça dépend des pièces. C'est vrai que Vue du Pont, c'est une pièce qui dure 2h30. Moi, là, j'ai joué un Pinter cette année qui dure 1h10. On est 4 sur scène. Enfin, voilà, c'est du cas par cas quand même.
Oui, c'est sûr. C'est
tu vois, mais après, voilà, il y a des. Moi, j'aime bien jouer au théâtre aussi régulièrement. Donc, si tu tournes, il faut aussi trouver.
Mais est-ce que une actrice, un acteur peut se permettre de dire non à un projet ? Refuser une pièce de théâtre. Non, mais c'est-à-dire.
Heureusement que oui.
Ou alors, essaye de pousser un tout petit peu les murs, le planning, l'emploi du temps, en disant, mais il faut quand même, je peux pas refuser cette pièce, je peux pas ne pas faire cette série,
Non, c'est quand même très arrangeant sur un tournage. Tu vois, après, ils s'organisent, tu vois.
En même temps, ils peuvent rien faire sans vous.
Ouais, il y a ça, mais quand même, tu vois, là, je sais que des fois, je pars en taxi-moto.
Je suis super la bonne élève, je suis hyper dispo sur Engrenage.
T'es toujours remplaçable, tu sais. Ouais. Franchement.
7e saison, se séparer de ces deux personnages.
On va pas divulgager, mais
en revanche,
il peut se passer des choses.
Non, et puis l'intérêt aussi pour vous, j'imagine, professionnellement, c'est d'être dans Engrenage, mais aussi de pouvoir en sortir et donc de pouvoir accepter de faire autre chose.
Bien sûr. Voit dans autre chose, sinon, à un moment donné, voilà.
Bien sûr.
Alors, dans l'année 2012, vous écoutiez Thierry Godard, Nouvelle Vague. Nouvelle Vague est en groupe avec des invités, il y a différentes voix, différentes
guests. J'aime bien Nouvelle Vague, je trouve que... Ouais,
font beaucoup de reprises aussi.
Beaucoup de reprises, avec Cure aussi, ça, ouais, d'ailleurs.
All Cats Are Grey, oui.
Et vous aussi, on vous retrouve au théâtre, dans Mademoiselle Julie, mise en scène par Robert Renucci, une pièce de Strindberg. Mmh. Et vous jouez, avec qui vous jouez d'ailleurs dans le village français, Robert Renucci.
Ouais, tout à fait. Et Nadieu aussi, il y avait Nadieu aussi qui était dedans. Ouais.
Et donc là encore, c'est cette façon de toujours garder la scène pas très 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 loin de vous.
Ouais,
et
puis surtout sur des rôles comme ça, on peut pas refuser à un moment donné Mademoiselle Julie, c'est pas possible. C'est ça que ça. Non, mais c'est vrai.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Je parle pas de Mademoiselle Julie, je parle
de la pièce. Il y a un moment où, quand on est face à un projet, qu'on se dit, on le sent, on le ressent.
Il faut y aller. Robin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Robin Renucci, directeur d'acteurs incroyable. Mmh. On l'a créé en Corse, il a un théâtre en Corse sublime.
C'est un don de lire, la question s'adresse à Caroline comme à vous Thierry, c'est un don de lire un projet et de savoir immédiatement si ça peut le faire ou pas, s'il y a quelque chose. C'est une qualité autre que l'interprétation et que le jeu sur scène.
C'est l'instinct.
La lecture.
Ouais, c'est
le... Savoir lire.
Moi, je l'ai appris. J'ai appris parce que je
il faut pas, c'est comme disait Voltaire, quoi. Il faut pas lire qu'avec ses yeux.
Ouais, ça faut lire avec son instinct.
Ouais.
En fait, c'est ça que quand on est à l'école, on vous apprend à faire des choses bien et tout ça. Moi, j'étais plutôt une bonne élève, pas excellente, plutôt une bonne élève. Et en fait, quand on est acteur ou n'importe quel travail artistique, en fait, il faut, je pense, trouver l'endroit où on est le plus proche de son instinct. Et donc, ça veut dire qu'il faut bannir absolument tout ce qui est justement de vouloir bien faire et tout ça.
Thierry, vous aussi, c'est la lecture immédiate ou des conseils, un agent? Des amis,
non, c'est,
une compagne avec qui vous partagez des...
Il y a plusieurs paramètres. Il y a la lecture, évidemment, on se dit, tiens, c'est un rôle vers lequel j'ai envie d'aller, ça va me faire évoluer aussi. Et puis, il y a le théâtre dans lequel on joue.
Faut que ce soit quand même... Vous parlez quoi, de l'adresse ?
L'adresse.
Savoir s'il y a un bistrot pas loin, savoir s'il y a des restaurants.
Non, mais il faut que ce soit des conditions aussi.
Si la ligne 13 passe pour que Guillermo puisse venir, c'est quoi le truc ?
Non, c'est tout un tas de conditions. Le metteur en scène et
Partenaires.
Les partenaires, et voilà.
Le cachet, enfin bon...
Le cachet, il faut le dire.
J'ai respiré notre théâtre.
Au théâtre, ça...
Ouais, enfin si, c'est quand même très correct, il ne faut pas charrier, mais... ça peut être pas beaucoup.
Ouais, c'est ça. C'est, on peut le dire. Quoi. C'est pas énorme.
Ouais, mais voilà, mais c'est le théâtre.
C'est, enfin, c'est,
voilà,
moins, c'est moins qu'une journée.
C'est une autre économie.
Ah, c'est incomparable. C'est incomparable.
Voilà.
C'est plus qu'une journée dans une usine aussi.
Voilà. Ah, voilà.
Plus donc, qu'une donc, journée en France.
Ça dépend. Non, il y a des fois, ça peut être même moins qu'une journée dans une usine. Ça peut arriver. Il faut penser, il y a beaucoup d'intermittents qui galèrent.
Non, mais bien sûr. Non, mais je parlais de 8 heures à l'usine et de donc toute proportion gardée. Voilà.
Pas au fond de la mine, en tout cas. Voilà.
Nous allons parler avec Pierre Langlais, qui est un habitué de ce micro. Bonjour, Pierre, merci.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Télérama, on a tous un défaut. Vous êtes spécialiste des séries.
Bienvenue. Le tapis rouge avec Nagui.
Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez.
Mais ça, c'est... Ouais. Ah non, mais tu veux dire que ça s'est entendu?
Non,
tout,
pas du tout.
Un tout petit peu.
Je ne sais pas, je ne lis pas. Pierre, non, blague à part, vous êtes spécialiste des séries télé, brillant spécialiste. On parlait tout à l'heure d'Engrenage en disant que c'était la première création originale, que c'est devenu maintenant un repère presque pour Canal, une série culte, 70 pays. Elle est vraiment à part parmi toutes les séries françaises.
Elle a été à part et elle est, c'est un peu la balise nous entre critiques quand on essaye de se dire à partir de quel moment les séries françaises on a senti qu'il se passerait un truc. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'on sent qu'il va se passer un truc, on n'y est pas encore tout à fait. Mais 2005, Engrenage, c'est le premier déclic. C'est récemment j'ai été invité dans une médiathèque à commenter le premier épisode d'Engrenage, donc j'ai revu le premier épisode et ça a un tout petit peu vieilli et niveau rythme on n'y est pas encore, etc. Mais on sent qu'il y a un réalisme, il y a un truc cru, il y a quelque chose de bien différent d'une série française des années 90 début 2000 qui était encore très polissée. C'est un format qui était assez méprisé en France. Ouais, aujourd'hui on commence à dire les séries voilà c'est génial, etc. Mais en 2005 on était encore à une époque où quand on disait bonjour je suis spécialiste des séries, je vous regarder en disant ça existe.
Alors avec le recul justement, quelle a été sa particularité pour qu'elle sorte du lot et pour qu'on se dise et pour que Canal se lance dans une série policière qui appartenait dans le genre plus à TF1 ou
oui c'est vrai qu'il y a France 2 qui avait fait à la fin des années 90 PJ 2-3 séries qui étaient déjà plus crues, plus réalistes, Centrale Nuit, des choses où on commençait à sortir de la caricature de Julie Lescaut, enfin de choses où tout était assez lisse, où tout le monde était content à la fin, comme vous le disiez, dans des open space incroyables, quoi que ça existe encore. Et donc cette série montrait la réalité du travail de la justice, la difficulté des flics, ce que les Américains ont fondé dès les années début des années 80 avec des séries comme Hill Street Blues, où en fait vous pouvez aussi avoir des épisodes où il ne se passe pas grand chose, c'est-à-dire où on patine, on se plante, il peut y avoir un vice de procédure comme vous disiez tout à l'heure.
Alors c'est quoi, on humanise la police,
on réalise les enquêtes, on met plus de réalisme, c'est-à-dire que d'une part, bon en plus en Grenage il y avait des conseillers flics, etc. qui on voit des choses, on se dit, ok, c'est crédible, sans doute que ça se passe comme ça chez les flics et chez les juges. Et ensuite, évidemment, on humanise, mais ça, l'humanisation, je crois que c'est depuis longtemps que c'était le cas, mais sauf que c'est une forme d'humanisation qui n'est pas dans le super-héros. C'est-à-dire qu'on a affaire ni à des anti-héros, comme on voit beaucoup, c'est-à-dire ils sont tous pourris, rien ne va dans leur vie, ni à des chevaliers blancs. On a des personnages en contraste, et c'est ce qui fait que la série a marché.
Est-ce qu'ils se sont inspirés d'un style, d'une écriture américaine, à votre avis?
Moi, je pense pas. Je pense que c'est une série qui avait vraiment son originalité. C'est d'ailleurs une des raisons, je pense, pour laquelle ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a pendant trop longtemps, la télé française avait un complexe d'infériorité par rapport aux Américains. Et donc, fallait absolument pomper les séries américaines. On peut penser à Law and Order, hein, qui est une série dont le principe est comparable, c'est-à-dire que c'est une série
entre... Pas,
alors ça s'appelle New York Unité Spéciale, maintenant, ce qu'il en reste en France.
Okay,
c'est-à-dire qu'il y a la moitié c'est les flics, l'autre moitié c'est la justice. Voilà. Donc, là, qui est une série qui existe depuis les années 90. Donc, voilà. Mais sauf qu'elle avait sa tonalité, elle est très française. Enfin, voilà, c'est la loi française. On dit pas votre honneur et on dit pas objection. Enfin, voilà. toutes ces choses qui n'existent pas dans la loi française. Et donc, elle a
donc,
une vraie identité.
Il faut des consultants sur le tournage. Il faut des repères pour savoir si on est dans
Il y en a tout le temps.
Que ce soit des policiers, des avocats, des juges, il y a des professionnels qui vous disent ça oui, ça non.
Bah, d'une part, quand on tourne, mais en plus en amont, c'est-à-dire sur
à l'écriture,
ils ont des conseillers absolument sur chaque pôle.
Dans la famille, comme ça, des réussites en fiction française, on peut rajouter quoi? Braco, en tout cas pour la première saison.
Oui, moi Braco, j'aimais bien l'efficacité, moins les personnages que je trouvais un petit peu bas du front, et c'est ce qui m'a un peu embêté sur cette série-là. Moi, les personnages qui se jettent la première dans les emmerdes, je trouve que c'est sympa pour le scénario, mais c'est pas crédible. dit, pour l'humanisation, justement, comme on disait. Non, bah, il y a les Revenants, la première saison des Revenants, ouais, qui avait vraiment marqué. Là, on reste chez Canal. Ainsi soit-il, la série d'Arte, pour moi, a été un pas majeur, parce que c'était ce qu'on appelle un drama, globalement, aux États-Unis, qui est vraiment ces histoires où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de suspense fort, c'est juste l'humanité des personnages qui compte. Et ça, c'est vraiment un beau pas en avant. Et puis, clairement, ces temps-ci, on voit de plus en plus de belles choses, de séries originales qui font un petit peu avancer les choses.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a que vous avez déjà vu et qui vont arriver et que l'on ne connaît pas encore? Parce que là, on parle beaucoup de ceux qui ont déjà marqué leur territoire, qui ont plusieurs saisons et années d'existence. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
En série française.
Ouais.
Alors c'est toujours difficile parce que c'est surtout
quand vous les voyez avant tout le monde.
Oui, on les voit avant tout le monde, mais là il y a pas moi de choses. Alors il y a Jeux d'influence qui arrive sur Arte prochainement, qui est une série de Jean-Xavier de Lestrade notamment, donc qui est aussi documentariste oscarisé, qui donc lui a une approche très réaliste. Et là on est dans une enquête par rapport à une intoxication par des produits chimiques qu'on répand sur les champs. Donc on est vraiment dans l'actualité de la dangerosité de certains produits. Donc là Arte a une série intéressante là-dedans. Après je pense qu'il va falloir attendre les grands festival, le Sérimania notamment, qui ont lieu en mars, où là les chaînes sortent leurs séries et les montrent et on en voit plus pour savoir.
Et alors justement, les chaînes ont la pression de rattraper les Netflix et autres Amazon dans la production de séries.
Mais faut pas essayer, ça va trop vite.
Il y a pas photo.
Non, mais en termes de force de production, en quantité, c'est pas la peine. C'est en qualité qu'il faut le faire. Ouais. La télé française n'aura aucun intérêt à essayer de faire plus de séries Netflix. Faut en faire des meilleures. Ouais. Et pour l'instant, en termes de séries françaises, Netflix c'est pas particulièrement encore moins Amazon,
Ils se sont un peu loupés sur Marseille, quoi.
Un peu?
Ouais.
Ils sont beaucoup loupés.
Il y a une deuxième saison, quand même.
Il y a une deuxième saison, mais qui est pire que la première, parce que la première était tellement nulle qu'on était tous morts de rire. La deuxième, elle était plus sérieuse.
Mais il paraît que ça cartonne avec la troisième.
C'est fini, c'est fini. Non, mais voilà. Donc, il y a un travail de sérieux, de qualité, de choses exigeantes, nouvelles et tout à faire. Et je pense que, à commencer par Arte et Canal Plus le font. Et maintenant, j'aimerais bien que France Télévisions le fasse aussi. Ces derniers temps, quand même, j'ai pas vu grand-chose de génial sur France Télévisions.
Il y a Leïla, quand même.
Pas une série.
Merci, Pierre Langlais. Merci beaucoup.
Merci.
Portez-vous bien. Tanguy, soyez bienvenu.
Bonjour, merci.
Vendredi soir, vous serez devant votre télé. Pourquoi?
Oui, parce que je vieillis, donc vous me mettez devant Thalassa avec sur les genoux un chat. Je suis heureux. Mais une fois que j'aurai vu le reportage sur les 4 cabillauds qui ont survécu à la surpêche, j'irai voir Marlène Schiappa chez Hanouna. L'événement télé du siècle. En tout cas, si le siècle avait commencé lundi.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali, Tom Villa, Daniel Morin, Guillermo Guiz, Tanguy Passureau et nos invités Caroline Proust et Thierry Godard. Nous parlons d'Engrenage, cette série qui est devenue culte, comme vous l'avez compris, comme vous l'avez entendu. Engrenage qui revient sur Canal+ pour une 7e saison. À partir du lundi 4 février, 2 épisodes par soir. Est-ce que le plus dur est fait, Thierry, quand une série a été comme ça tournée, je ne sais pas d'ailleurs depuis combien de temps, tout est en boîte, ou est-ce qu'il y a quand même la petite pression, le petit pincement en se disant est-ce que ça va plaire?
Ouais. Il a trop rendez-vous.
Il y a pas gros risque, franchement. Enfin, nous on l'a vu, vous êtes totalement dans la lignée. Il y a encore une progression, il y a encore des surprises qui sont réservées.
Bah, je sais plus à un moment donné. Tu sais, j'oublie ce que j'ai tourné, j'oublie tout. Tu sais, mais ouais, il y a la pression que évidemment que les gens soient pas déçus par.
Non, mais je vous écoute, Thierry. Soyez pas déçus par quoi?
Bah par je sais pas, par nous, même que nous on soit pas, qu'ils nous attendent pas au tournant, enfin qu'on soit différent, qu'on ait des.
Mais alors ça, pardon, le ressenti, vous l'avez pas au jour le jour, au quotidien, vous, j'imagine que ça, il y a un temps entre la diffusion et le retour sur le produit, sur les abonnés. Je sais pas s'il y a des sondages qui sont faits ou autre.
Ouais, mais ça, moi je m'en fous.
Si, il y a des sondages qui sont faits. Si, bien sûr. Il y a des tas de gens qui travaillent pour faire plaisir en fait au public.
J'entends, mais alors
pour savoir s'il y aura une saison 8,
ouais,
déjà.
Ouais.
Bah oui.
C'est prévu ou pas encore?
Ils sont en écriture.
Ah. Ouais, donc c'est déjà prévu. Donc
c'est déjà prévu.
Vous êtes intouchable.
Ouais. Tu sais, PPDA, il disait ça aussi.
Charles Aznavour, il disait ça aussi.
Oh non, arrête.
Omar Sy aussi, mais c'était pour un film. Très bien. Ouais, c'est Tanguy Pastureau. Tanguy, on en parle beaucoup. Vendredi, il y aura Marlène Schiappa à la télé.
Oui, c'est super. Du coup, je vais regarder, alors que tous les vendredis d'habitude, je regarde La vie secrète des chats sur TFX. Je vais rater l'épisode 6. Du coup, je ne saurai jamais pourquoi les chats se lèchent l'anus. Mais comme Marlène Schiappa va dans l'émission d'Hanouna, je garde espoir. Il est possible que le sujet soit malgré tout abordé. Alors attention, quand on dit Schiappa chez Hanouna, ce n'est pas dans Touche pas à mon poste, l'émission avec Gilles Verdez qui hurle déguisé en bourdon. Il s'agit de Balance ton poste, un talk show d'actu avec des gens crédibles, comme Doc Gynéco ou Bernard Laporte. Donc pas de nouilles dans le slip ou de salsifis entre les fesses pour ceux qui souhaiteraient s'éclater avec des aliments plus sains. Il y a juste des gens qui causent et s'invectivent. Dans l'émission, ils ont déjà reçu une femme à niqab, un naturiste, si on faisait la moyenne des deux, on obtenait quelqu'un portant un nombre normal de fringues, mais aussi Joachim Sonforget, le député sorti trop tôt de Sainte-Anne et qui vit sur Twitter, plein de politiques comme Alexis Corbière ou Philippot, et même des gus de la Startup Nation du Shoes France and Mayas on the Commode, comme Mounir Majoubi, ministre du numérique. Donc c'est même pas la première fois qu'un des stagiaires de 3e de Macron met une pièce dans la machine. Tous sont venus vendre leur soupe, Balance ton poste, ils ont tout le monde. Si on libère Francis Holm, 2 heures plus tard, il est sur le plateau. Et Eric Nolot lui dit « J'avais envie de vous clasher, mais je sais pas pourquoi, je vais pas le faire ». Toute la journée d'hier, les réseaux sociaux sont enflammés. Parce que C8, qui a ses programmes de qualité, hein, je pense notamment à la chronique politique du dimanche soir, annonçait Hanouna et Schiappa en co-animation, comme Charlie et Lulu Naguère, mais sans live de Laurie. Or, Madame Schiappa est une ministre, pas une star du PAF. Chacun son job. Nagui, le mercredi, il n'est pas à l'Assemblée à poser des questions à Édouard Philippe. Hein, d'autant que le grand débat national, parce que c'est ça que Schiappa vient présenter, c'est censé être une discute entre tous les Français. On écrit des doléances, on parle, on fait tourmenter à Macron qui répond non merci, ça va aller. Pas un exposé de La République En Marche entrecoupé de pubs pour du saucisson. Hier, Marlène Schiappa a donc rétro-pédalé. Elle a dit qu'elle aurait juste un paperboard et des feutres Velleda. C'est super, on va avoir l'impression de se taper la télé roumaine en 79. Patrice Lafonde en dessiné ses gagnés il y a 30 ans, c'était plus moderne. Au téléphone sur RMC, elle a même ajouté, je cite, ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. C'est vrai, regardez le spritz l'été. C'est dégueu, mais si on en boit plein, ça permet d'oublier qu'on est à la grande motte. Et elle ajoute, je vous rappelle que Galilée était tout seul pour dire que la Terre était ronde et tournait, la majorité pensait qu'elle était plate et statique. Parce qu'elle va chez Hanouna, elle se compare à Galilée. Si en plus elle se gare au parking Vinci à côté du studio, elle va se dire, purée, ça me ressemble tellement, moi aussi je suis un génie. Non mais c'est n'importe quoi. D'autant que d'après ce que j'ai lu sur le forum reptilienalien.com, la Terre n'est pas ronde, elle est en forme de pyramide.
Bon, maintenant, pourquoi la ministre, secrétaire d'État, tient-elle à aller dans cette émission?
Eh ben parce que tous ces connards qui regardent les soirées thématiques d'Arte ne le savent pas. Ah ça, ils connaissent jusqu'à la couleur du slip de Goebbels, mais pour tout ce qui est 2019, ils sont largués. Mais Balance ton poste depuis 2 mois reçoit des gilets jaunes. Hanouna lui-même s'est fait le porte-parole des gilets jaunes. Donc qu'est-ce qu'elle se dit, Galilée, qui d'ailleurs bosse pour Jupiter, hein, c'est plus un État, c'est un télescope. Elle se dit, je vais aller parler aux gens là où ils sont. Ça paraît logique, l'émission chaque vendredi fait 700 000 téléspectateurs. Spectateurs. Si elle est capable de les retourner, derrière, elle peut convertir Gérard Larcher au véganisme. Galilée déclare d'ailleurs, je cite, « Je veux ramener dans le débat public les personnes qui sont devant l'émission d'Hanouna. » Mais enfin, il y a mieux. Elle s'y connaît en télé comme François Baroin en note aiguë. Parce qu'un seul passage dans N'oubliez pas les paroles, qui a déjà pointé à 4 millions de gens, son débat, là, il était lancé. Vous la mettiez sur du chic, elle chantait le RIC, c'est chic. Et les gilets jaunes chez eux grouvaient debout sur la table basse du salon en criant « On avait tort, bébé, Galilée, elle est au top. » Et je vais vous dire un truc, vu qu'il neige à Paris et que tout le monde est en breaking news juste parce que le teckel de ma tante a pissé sur une congère, bah 2 minutes en live avec Louis Baudin sur la Une, ça suffisait amplement. Là, elle va se taper 2h30 d'émission face à des gilets jaunes remontés. Son paperboard, ils vont lui faire avaler sans eau plate. Alors d'autres politiques, des jaloux, hein, parce qu'eux aimeraient bien montrer leur face chez Hanouna, ont réagi, dont Caroline Fiat, députée insoumise, très inquiète, hein, qui a déclaré, est-ce qu'ils feront des jeux et est-ce qu'il faudra se déshabiller, hein. Il n'y a que quand une femme est invitée qu'on demande ça. Quand Majoubi est venue, personne s'est demandé s'il a enfilé un slip à trompe ou joué à Chabit avec de l'ormeau. La politique, ça changera jamais. Alors en attendant, dans 2 jours, Baya Galilée à la télé, vendredi chez Hanouna. Samedi, elle sera sur Gulli, en co-animation avec Peppa Pig de la soirée Grand Débat National en famille. Alors peut-être, vu son raisonnement d'aller voir les gens là où ils sont, vendredi prochain, dans la vie secrète des chats, hein, sur TFX, parce qu'il y a quand même 12 millions de Français qui ont des chats. Il faut s'adresser à eux. Et vu le prix des croquettes, c'est une question de pouvoir d'achat. Et bien sûr, on ne verra pas Marlène Schiappa sur Public Sénat. 40 000 passionnés de politique avec un regard acéré, ça vaut vraiment pas le coup de se déplacer avec le paperboard.
Merci, Tanguy.
La bande originale. Sur France Inter.
Et on retrouve Tanguy le 9 février à Herguet-Gabéric, c'est près de Quimper.
Nous parlons d'engrenage avec Caroline Proust et Thierry Godard. On a entendu parler de ce fameux pilote que tout le monde a envie de voir maintenant.
Ouais, ouais.
Même si il est planqué quelque part dans un tiroir et Caroline dit il vaut mieux pas le voir, mais quand même ça nous démange. Vous êtes allé à un casting vous aussi, Thierry Godard?
Ouais, j'ai failli pas y aller en fait. Sur je vais au Théâtre du Rond-Point.
Marguerite Duras?
C'était pas Duras, c'était Dubillard, je crois.
D'accord.
C'était une pièce de Dubillard. Et puis, j'ai une série, fait chier. J'avais pas du tout envie de me retrouver dans une série. Comme tu dis, il est parti. À l'époque, les séries, c'était, voilà, on savait pas dans quoi on partait, ouais. On savait pas. Voilà. Et j'y étais quand même. Et moi, j'ai pas fait un doigt, mais je crois que j'ai dit, c'est toi enculé, un truc comme ça.
Ah oui.
Une sorte d'interrogatoire un peu musclé. Et ça leur a plu. Et voilà, j'ai juste fait, c'était très peu, quoi.
Quand c'est bien dit. Non, c'est-à-dire qu'ils voulaient voir si vous, vous assumiez une espèce de quotidienneté dans le verbe, dans le geste, dans le comportement.
C'est bien dit, ça, ouais. C'est
non,
vrai.
On sentait, ils voulaient ça. Ils voulaient quelque chose d'assez instinctif il n'y avait pas de texte, quoi.
Je me souviens pas.
Non, ils voulaient voir ce qu'on était.
Fallait pas montrer qu'on savait manier les armes. Enfin, en tout cas, qu'on savait se tenir mais avec
lui,
un.
Lui, il veut tirer 3000 cartouches à la minute.
C'est pour ça.
Mais vous aimez les armes? Vous
pas
aimez ce rapport?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais dans
Bastidage. Non, mais jouer au cowboy aux Indiens. Vous faisiez ça, quoi.
Ouais, je faisais ça. Non, mais dans Bastidage, oui, on tirait beaucoup, là. Tu vois, en France, ça coûte cher de tirer. Je pense que les Américains, un petit peu plus.
Je savais pas que c'était une question de budget. À quoi servent les coachs, les professionnels qui vous entourent, qui vous conseillent, Caroline Proust, sur le tournage?
Les coachs, c'est pas tout à fait des coachs.
Alors, les vrais policiers ou les conseillers
techniques. Ouais. Ils nous conseillent techniquement.
Oui, mais ça va être... J'imagine qu'en 7 saisons, vous les avez acquis, les réflexes à
oui,
avoir.
Mais on a toujours des questions. Parce que chaque fois, c'est, par exemple, là, cette saison, comme on est sur l'école blanc, bah là, on était dans des endroits, donc comment ça se passe? Donc, par exemple, on arrive à l'hôtel Hayat, et donc, comment est-ce qu'on rentre dans l'hôtel Hayat pour pas se faire repérer alors qu'on est en train de filocher quelqu'un et qu'on veut prendre en flag parce que c'est toujours le truc. Et ben voilà, il est là pour nous conseiller. Il joue dedans d'ailleurs. Notre conseiller technique, c'est JP.
Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous arrivez à repérer les flics en civil de...
Est-ce que vous commencez à avoir un œil de professionnel,
ça fait un moment.
C'est vrai?
On a un petit peu des yeux qui traînent partout.
Quelle est l'opinion des policiers à votre égard? Est-ce qu'il y a une reconnaissance de refléter leur vraie vie?
Ceux qui s'expriment, en effet, le font, oui. Peut-être qu'on n'a pas de gens méchants qui nous disent... des gens qui pensent qu'ils n'aiment pas ou que je ne sais pas quoi.
Les polémistes, qui cherchent...
Ils ne se manifestent pas, ceux-là. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui se manifestent...
Normalement, c'est l'inverse. Il n'y a que ceux qui sont qui râlent, voilà, qui gueulent, mais là, ce n'est pas le cas.
On peut penser qu'ils sont plutôt tous très, très...
Dans l'empathie.
Oui, ils nous aiment beaucoup. Et j'ai encore reçu un message, là, sur Facebook, d'un policier qui dit que c'est la série qui ressemble le plus à ce qu'il vit.
Et les femmes, la place des femmes dans la police, on sent quand même que c'est un milieu testostérone.
Il y a beaucoup de garçons, quoi, finalement. Je pense que c'est assez représentatif aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir un degré d'autorité pour pouvoir s'imposer dans ce monde essentiellement dominé par les hommes. Mais enfin, regardez là autour de ce plateau, c'est aussi dominé par les hommes.
Il faut avoir
une
certaine autorité pour s'imposer.
Voilà, c'est ça. On est d'accord.
On a tous des côtés féminins très développés.
Oui, enfin bon, on les voit pas beaucoup avec toi.
Oh, regarde bien.
La question de la parité, du salaire égal arrive ou pas dans l'engrenage?
Bien sûr.
C'est bien.
Moi, c'est ce que je demande à mon agent. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'avais mon agent qui m'avait dit « Mais si t'étais un garçon, ça serait quand même plus facile pour négocier. »
Non, mais tu voulais dire dans, en tant que flic, tu voulais dire.
Non, je parlais de.
Ah bah oui, ça.
Je n'arrive pas à comprendre qu'un comédien, une comédienne jouant à part égale le même nombre de lignes, il y a une différence de budget. Je ne comprends pas quel est le raisonnement.
Il y a ça aussi avec les comédiens belges qu'on paye moins cher aussi.
Ça, c'est normal, ça.
Et les Luxembourgeois, on n'en parle même pas.
Ils ont quand même perdu une demi-finale de football, il n'y a aucune raison.
Ils sont meilleurs que nous et ils sont moins chers.
Donc ils vous piquent du boulot.
Donc ils nous piquent.
Voici Daniel Morin, messieurs.
Stop ! Arrêtez ! Rien n'a plus. Ce matin, les fabricants et distributeurs de couches culottes sont tous convoqués par le gouvernement. Motif, leurs couches contiendraient des substances toxiques, des substances allergisantes et même cancérigènes. On notera la présence de substances parfumantes. Faut pas exagérer, ça sent pas bon, c'est clair. Mais si tu changes régulièrement ton enfant, ça va. Si tu le changes une fois par semaine, si tu attends que chez toi ça sente les toilettes du zoo de Vincennes, zone guépard, là oui, on comprend l'utilité des substances parfumantes. Mais sinon, pas trop besoin de supprimer, d'anéantir les odeurs des petits pipis de bébé. On en retrouvait également dans des couches des traces d'hydrocarbures. Alors, j'y connais pas grand chose. Mais ça ne doit pas être non plus hyper confortable. En même temps, maintenant, on comprend mieux pourquoi les enfants chouinent souvent. Je m'imagine très mal garder le sourire si je passe la journée assis dans une gamelle remplie de samplon 98. Non. Et c'est pas fini. Il paraît que dans certaines couches, on aurait trouvé des traces de pesticides genre glyphosate. Ah. Non mais allô ? Allô quoi ? Du glyphosate dans les couches culottes ? Au secours ! Depuis quand faut des pesticides dans les couches ? Alors pesticides, substances parfumantes, hydrocarbures. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des fabricants de couches culottes ? Votre bébé mérite le meilleur. Votre bébé mérite les couches Pampan. Non seulement les couches Pampan sont garanties anti-fuite, mais elles bénéficient des technologies les plus efficaces et assurent un confort maximal pour bébé. Les couches Pampan contiennent un voile parfumant des plus performants. Un voile qui vous offre plus de 24 heures de tranquillité sans avoir à changer bébé. 24 heures sans odeur, sans plus jamais avoir la honte en public à demander à votre rejeton « Eh ben alors Junior, t'as quoi dans ta couche, un poisson mort ?» Les couches Pampan sont bien entendu traitées au glyphosate et garanties anti-insectes. Fini les cafards, les pucerons, les torifores, les cancrelats et autres charançons qui envahissent les couches de votre bébé. Bon, c'est vrai, ça n'arrive jamais. Mais on sait jamais. Notez enfin que les couches Pampan sont toutes équipées d'un tapis d'hydrocarbures qui ne sert à rien pour l'enfant, mais qui pour un trajet en voiture en cas de panne sèche peut s'avérer utile. Une fois essoré dans le réservoir de votre voiture, le mélange hydrocarbure-urine contenu dans la couche vous permettra de faire les quelques kilomètres qui vous séparent de la prochaine station-service. Avec les couches Pampan, libérez les fesses de votre enfant. Notez que les couches Pampan vous conseillent en cas d'utilisation de ces produits de crémer les fesses des petits 30 fois par jour, de suivre un traitement anti-radiation et d'inscrire l'enfant porteur à des séances de rééducation sous peine de risque d'infection, voire de disparition totale du croupion. Sachez enfin que les produits Pampan sont fortement déconseillés par le ministère de la Santé. Moi je dis quand même, vive le progrès. À demain.
Merci Daniel.
Avec Nagui.
Engrenage, la très bonne série revient sur Canal+, pour sa 7e saison, à partir du lundi 4 février, 2 épisodes par lundi, et le jour de la première diff, 4 février, l'intégrale, est disponible sur MyCanal pour les abonnés, évidemment. Caroline Proust, vous avez d'autres projets à côté d'Engrenage. Vous avez tourné un téléfilm, Une mort sans importance.
Oui, le titre est encore
provisoire.
C'est un titre provisoire, voilà.
C'est pas mal.
D'accord.
Oui, bah,
vous y faites quoi?
C'est en discussion.
C'est pour France 2. Hein, c'est ça,
c'est pour France 2 et je fais une policière.
Bah tiens.
Bah oui. Vous voyez, quand on fait bien son travail.
Est-ce que vous vous posez la question lorsque vous voyez arriver un script, une pièce ou une série où vous êtes policière, vous posez la question de dire je vais pas recommencer encore là-dedans. Bah, ou au contraire, j'aime ça et j'y vais.
Non, mais c'est-à-dire que là, j'ai accepté parce que il y avait autre chose à raconter que c'était pas juste une policière, quoi. Donc c'était aussi une maman. Donc ça raconte aussi cette histoire-là de cette maman qui est confrontée à un fils meurtrier. Elle va découvrir que l'enquête.
Ouais, le fils est mêlé à une affaire.
Voilà.
Ouais.
Donc, du coup, il y a en effet d'autres choses à jouer que ça. Mais ce qui est assez effarant, c'est que depuis que j'ai fait Le Cousin, en fait, hein, donc c'était il y a fort longtemps, et quand Alain Corneau m'a dit que j'allais faire la policière, j'ai dit mais je vais pas du tout être crédible, je sais pas tenir un flingue, je vais être ridicule, je ne sais pas. Il m'a dit on va te préparer. Et depuis ce temps-là, finalement, on me propose pratiquement que de faire des rôles de flics. Alors c'est assez.
Et de quoi rêvez-vous et que l'on ne vous propose pas encore ?
Je rêve de plein de choses et là notamment ben, j'aimerais bien jouer le rôle de Sandrina George, j'aimerais bien faire ça, qui est une femme qui se bat pour que son homme sorte
dans votre propre film.
Voilà, dans mon propre film. Donc ou pas, ça peut être s'il y a un réalisateur qui nous accompagne, parce que je suis en train de mettre un petit peu d'eau dans mon vin, si je peux dire, même si je déteste mettre de l'eau dans le vin, mais c'est une expression.
Est-ce que vous avez déjà le titre d'ailleurs de ce film?
L'homme derrière la vitre.
L'homme derrière la vitre, d'accord. L'image du parloir ou l'image de la salle où il est condamné à mort.
C'est-à-dire que cette particularité quand même, qui est qu'elle ne le connaît que derrière une vitre. Mm-hmm. Elle s'est mariée avec lui, c'est un homme qui est derrière une vitre.
D'accord. Thierry Godard, en septembre dernier, vous avez tourné également, même pas pour France 2, mais pour France 3, Mauvaise Mère, avec Barbara Schulz, que nous recevrons vendredi, ouais, si ma mémoire est bonne. Ouais. Une histoire vraie, à la base.
De l'adoption, ouais. Très belle histoire, ouais, sur la difficulté d'adopter, enfin la difficulté d'adopter, et puis voilà.
Ça passe quand tout ça? Parce que ça a été tourné, mais pas encore diffusé. Vous savez pas, vous êtes pas au courant de Jean-Jou. D'accord, ok, très bien. Et pour France 2, vous avez tourné Des rêves au-dessus de leur tête avec Léa Drucker et Romane Bourringer. Ouais. Que jouez-vous?
Je joue le. En ce moment, je fais les maris beaucoup. Je fais le mari de Léa. Mais c'est super.
Attendez quelques années avant de faire le grand-père. Écoutez, ça va. Vous êtes encore crédible en mari ou en amant?
C'est vrai. Non, mais voilà, on est vraiment, ça parle du rôle des migrants. Ça parle des migrants, Porte de la Chapelle, voilà, et c'est Léa qui, elle, est une femme plutôt engagée, qui a une asso, enfin voilà, et moi qui fais un toubib un peu, qui sent que sa femme s'échappe à cause de cet investissement qu'elle a auprès des migrants.
Alors vous ne jouez pas que les papas ou que les policiers, vous avez également joué le rôle d'un rédacteur en chef.
Ouais.
Qui se retrouve dans un court, j'ai presque envie de dire, c'est un film quoi, ça dure une demi-heure, c'est pas un court, ça s'appelle encore court-métrage.
Mais c'est un pilote en fait, c'est le pilote d'une série.
C'est vrai?
Ouais.
D'accord, qu'on a eu la chance de voir, dans laquelle Thierry Godard joue. Vous ne jouez pas, mais vous l'avez écrite, cette série, ou ce pilote en tout cas.
Ce pilote, ouais.
Et vous l'avez réalisé.
Oui. Bah oui, j'avais envie d'être complètement derrière
bien.
La caméra.
Et
merci.
C'est vachement bien.
Ouais,
c'est vachement
bien. Très très haletant. Ouais.
Ouais. Bah c'est-à-dire quand on n'a pas d'argent, puisque c'est autoproduit, quand on n'a pas d'argent, on fait des huis clos.
mais ça fonctionne parce que
30 minutes de huis clos,
il faut qu'il y ait quelque chose.
Voilà, ouais. Faut qu'il se passe des choses.
La tension est à son maximum. On peut dire le point de départ, c'est un journaliste qui revient d'une interview avec un terroriste. Le terroriste s'est suicidé face à lui, au point d'ailleurs de le maculer de taches de sang, en lui disant il y a un avion à Paris-New York au bord duquel il y a une bombe, l'avion va exploser, je suis le seul à avoir le code qui à distance permet de désamorcer cette bombe, pour ne pas qu'on me fasse parler, pour ne pas que j'avoue le code, je vais maintenant me tuer. Bing, le mec se tue, et de la part, ça c'est vraiment les deux premières minutes de votre court-métrage, et ensuite par le questionnement du journalisme et dans la rédac, doit-on ou pas communiquer cette information, peut-on ou pas en parler, a-t-on le droit ou non vis-à-vis des familles, vis-à-vis de la police, vis-à-vis des terroristes d'en parler, de dévoiler cette information.
Il a tout raconté.
Non, mais c'est tout le problème de l'éthique qui est posé dans la profession.
C'est vachement bien.
Ouais. Ouais, je suis très fière de ce qu'on a fait, parce qu'on avait vraiment, on a fait ça entre amis, à l'arrache.
Et l'idée vous est venue comment? C'est le regard sur l'information, sur le traitement de l'information.
C'est-à-dire que depuis les attentats de Charlie, en fait, bon, on est tous transformés. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une onde de choc qui est très forte. Et j'y prenais le train. J'étais en tournée avec Vue du Pont, et je prenais le train de je sais plus où c'était. On était au Havre, je crois, et on revenait sur Paris. Et je monte, donc j'ai la chance de voyager en première classe, et je monte il y a un barbu qui est assis avec visiblement, ben, il avait un sac à dos entre ses jambes, et puis il était habillé très harnaché,
grosse doudoune,
et il avait des grosses cuisses et tout ça, enfin, et je me dis
Daniel Morin, quoi.
Ce mec a une bombe sur lui, voilà, je me dis ce mec a une bombe sur lui.
Vous êtes parti en parano total?
Je suis parti en parano. Alors je me suis levée, c'est-à-dire que j'ai essayé de travailler, fallait que je regarde d'ailleurs un épisode d'Engrenage. Alors je prends mon ordinateur, puis je me dis je vais pas y arriver, je peux pas me concentrer, donc je me lève et je vais lui parler. Et je lui dis, excusez-moi, monsieur, je lui dis, qu'est-ce que vous avez dans vos poches?
Non.
Mais si, si, si. Et puis,
la flic.
Oui, voilà, c'est là où ça rejoint un petit peu.
Non seulement je mets le giro
à vélo, mais en plus, je fais ça, quoi. Donc, après, quand je raconte ça, bon.
Et le mec me sort
ses papiers. Le mec me sort ses papiers, mais si. Donc je me dis, là quand il fait ça, je me dis, bon, je suis un peu flic quand même, je suis un petit peu... Bon. Et puis, je lui dis, non mais bon, excusez-moi, je dis, vous savez, c'est un peu tendu en ce moment, donc on développe un peu des paranos certainement, excusez-moi. Puis je me rassois, puis je suis pas rassurée, donc je repars, je vais chercher d'autres collègues, je leur dis, mais de jeu, hein, de, qui étaient avec moi, je leur dis,
j'ai un sentiment de la police.
non, j'ai un sentiment de ça, enfin ça va pas et tout.
Et en plus, on culpabilise d'avoir ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'à la fois il y a le côté paranoïaque et à la fois on
se
dit... Il y a un délit de faciès qu'on n'assume pas. Ouais.
Et puis là-dessus, il y a quelqu'un, comme je l'ai circulé, il y a quelqu'un qui sort et puis qui me dit, est-ce que je peux faire un selfie avec vous? Je vous adore et tout ça. Je lui dis, ah bon, c'est pas du tout le moment, je suis complètement stressée et tout. Bon, alors on fait un selfie, tout ça. Puis le mec était super balèze. Et j'y vais, et vous? Alors il me dit, ma femme vous adore, elle est procureure, etc. Et j'y vais, vous faites quoi? Il me dit, bah, moi je suis militaire. Je fais, ah bah, vous tombez bien.
Non, j'ai une mission.
J'ai une mission pour vous. Et donc je l'envoie pour vérifier si le mec était louche comme je le pensais, quoi. Il revient, il me dit non, je crois pas et tout, non, je crois pas franchement et tout. Bon, voilà. Et puis finalement, le voyage se passe, je me rassois, je me dis bon, tant pis, je reste assise et puis je serai la première à sauter, comme ça au moins je souffrirai pas parce que je pense aux blessés.
C'est vrai,
c'était tout un film, c'est pour ça. Et puis finalement, le type descend au Mans et puis il se retourne et puis il me dit écoutez, la prochaine fois, appelez la police parce que vous auriez pu tomber sur quelqu'un qui soit plus agressif que moi. Et puis je me suis dit mais il faut faire, et donc voilà, j'appelle Cédric, mon scénariste, et je lui dis il faut qu'on écrive un truc sur une parano dans un huis clos et tout ça, parce que en fait qu'est-ce que voilà, et donc on est parti sur cette histoire là.
On salue ce monsieur pour son élégance de le prendre comme ça,
parce absolument, que absolument.
C'est vrai que c'était particulièrement,
et vous avez fait tourner Grégory Fitoussi à Nancy.
Et j'ai fait tourner Grégory Fitoussi à qui j'ai proposé le rôle de policier et il était super content qu'on le mette pas en costard cravate, voilà, et je suis très contente aussi.
Des excuses à présenter.
Oh là 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 là, plein, désolé. Pour les producteurs, le réalisateur et tous ceux qui ont travaillé sur le fameux pilote d'Intrigue au Palais et qui ont cru comprendre de la bouche de nos invités qu'ils avaient fait un boulot de merde. Alors, désolé pour Idriss Elba qui n'a pas pu choper Thierry Godard, et désolé pour George Clooney, Matt Damon, Daniel Craig et tous les acteurs mal coiffés qui n'ont pas été cités comme modèle par Thierry. Désolé pour le comédien retraité et débile, le fameux Antonio Banderas, qui a découvert seulement ce matin qu'il avait partagé l'affiche avec le bras d'un acteur mythique, Thierry Godard. Ah là là, Tonio, merde alors. Et les amis, désolé enfin pour tous les gens qui vont croiser la route cycliste de Caroline. Vous allez la rencontrer, elle met un gyrophare, elle se balade avec un fusil à pompe et un conseil en cas de conflit, un feu rouge, fuyez.
Merci Caroline Proust, merci mille fois, merci Thierry Godard.
Je peux dire je t'aime à la femme que j'aime. J'avais très envie.
Bah, parfait. Parfait.
Je t'aime.
C'est touchant. Chérie.
Elle se reconnaîtra ou pas?
J'espère.
Philippe Solers, c'est pas elle, hein, c'est Philippe Solers, c'est notre invité demain et on vous souhaite une très bonne journée avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand.